Le journal Jacques Molima.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, destruction des engins non explosés ce dimanche à Kinshasa. Une roquette et des obus ont été démolis cet avant-midi par les techniciens ghanéens de la MONUC. Selon le commandant adjoint de ce bataillon, ces armes proviendraient des événements qui se sont déroulés du 20 au 22 août dernier dans la ville de Kinshasa. Célébration de la 9e journée mondiale des personnes vivant avec handicap ce dimanche. Des manifestations ont coloré cette journée à Kisangani et Kindu. Une manière pour les personnes vivant avec handicap de dénoncer la discrimination dont ils sont victimes dans la société. Enfin, la sensibilisation et l'éducation de la population à travers la radio. Seul moyen pour tenter de stopper le VIH-Sida à Butembo. Telle est la résolution prise par les membres de l'éco-Sida à l'issue des journées de réflexion sur la pandémie. Voilà tout pour les sommaires, les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Une roquette anti-char de 40 mm et deux obus de mortier 60 mm ont été détruits aujourd'hui dans la commune de la Gombe par les techniciens du bataillon ghanéen de la MONUC. Le premier engin a été détruit à 10h35 sur l'espace vert situé entre les bâtiments de la Caisse d'épargne du Congo, la Cour d'ordre militaire et l'ISP Gombe. Les deux autres obus ont été détruits une heure après sur l'avenue des Orangers, non loin du cimetière de la Gombe. Selon le commandant adjoint du bataillon ghanéen de la MONUC, le major Boateng, ces armes proviendraient des événements du 20 au 22 août dernier entre la garde de Jean-Pierre Bemba et celle du président Joseph Kabila. Les détails avec Gumati.
Ces déflagrations sont celles de la roquette anti-char et des deux obus des mortiers antipersonnels détruits dimanche matin dans la commune de la Gombe. Cette opération a été conduite par le bataillon ghanéen de la MONUC. Les explications avec le chef des opérations du Centre de coordination de la lutte anti-mine pour les Nations Unies, Bruno Bouchardi.
La roquette a été placée en position horizontale. Il faut savoir que ce type de roquette anti-char contient environ 350 grammes d'explosifs, en plus d'un cône métallique qui permet la destruction des véhicules. Sur l'emplacement de l'explosif, sur la tête de la roquette, a été placée une charge de destruction, qui était une charge aussi à base d'explosifs, qui avait une dose de 250 grammes. Cette charge était destinée à faire réagir en l'écrasant la tête explosive de la roquette anti-char. Et on constate que 600 grammes d'explosifs, voilà ce que ça donne à peu près comme résultat, un cratère d'environ 1 mètre.
Quelle incidence ces explosions peuvent avoir sur l'environnement? Bruno Bouchardi affirme ceci.
Non, les incidences environnementales lors de la destruction par explosif sont de 2 ordres et on y veille toujours. Lorsqu'il s'agit d'une destruction d'une aussi petite quantité, on a moins d'un kilo d'explosifs qui a réagi, il n'y a aucun risque de vapeur toxique. Lorsqu'on fait des destructions de stock plus importantes, on veille bien à ce que ce soit dans un espace bien dégagé, de manière à garantir que les vapeurs toxiques se dissolvent avant de pouvoir atteindre toute habitation ou tout lieu où il y a des animaux.
Un autre engin a été découvert dans un tronc d'arbre et sera détruit incessamment, a annoncé le commandant adjoint du bataillon ghanéen, le major Boateng.
9e journée internationale des personnes vivant avec handicap ce dimanche 3 décembre. À l'initiative des Nations Unies et de la Commission européenne, cette journée a pour but de comprendre les difficultés rencontrées par les personnes vivant avec handicap à Kisangani. La journée est célébrée avec faste. Une grande marche a été organisée à travers les grandes artères de la ville jusqu'à l'esplanade de la Poste. Une ambassadrice des personnes vulnérables a plaidé pour l'intégration de cette catégorie de personnes à la chose publique. Le point avec Léon-Jacques Momba.
À l'occasion de cette journée, des scénettes et discours dans différentes langues de chaque groupe de personnes vivant avec handicap ont été présentés. Chaque groupe, aveugle, sourd, albinos, handicapé physique et mentaux, a présenté à l'autorité provinciale ses besoins et difficultés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Saisissant cette occasion, un représentant des personnes vivant avec handicap s'est exprimé pour revendiquer leur représentativité au sein du futur gouvernement, Kimina Ferouzi.
Très cher gouverneur, que vous soyez notre ambassadeur fidèle et attitré auprès des chefs de l'État. Dès lors, le prochain gouvernement formé, que notre classe soit valablement représentée au sein de l'organe législatif à fonction des vacances qui seront constatées par les membres de sa famille politique dans ces deux organes.
Même son des cloches du côté de l'ambassadrice des personnes vulnérables de la province orientale. Cette dernière a plaidé pour l'intégration de cette catégorie de personnes dans la vie quotidienne des citoyens. Pour elle, ces personnes doivent aussi aussi occupé des responsabilités dans toutes les institutions du pays, comme tout citoyen de la République démocratique du Congo. Madame Yvette Kouseyo.
Nous voulons qu'il y ait une intégration effective de nos handicapés. Et leur présence ici exprime leur volonté de voir ce changement.
Signalons qu'à la fin de la cérémonie commémorative, le vice-gouverneur en charge de l'économie et finances a encouragé les personnes vivant avec handicap à s'intégrer dans la vie quotidienne et à suivre la scolarisation comme tout autre enfant congolais. Kisangani, Don Jacques Mamba, Radio Kapi.
Les manifestations, il en était aussi question à Kindu dans le Maniema. Les personnes vivant avec handicap se sont saisies de l'opportunité pour dénoncer la discrimination dont ils sont victimes. Dans un message, ils ont fustigé les autorités de la province de les marginaliser et demandent qu'ils soient pris en compte car, disent-ils, ils sont encore aptes sur le plan mental. Gabriel Waminga.
Ils sont venus de toutes les trois communes de la ville de Kindu. Alunguli, Mikelenge et Kasuku, la commune mère qui a constitué d'ailleurs le point de départ de la marche qui a débouché à la salle Champagna de l'Institut de l'Enano de Kindu. Dans une foule nombreuse constituée de handicapés physiques et tout âge et sexe confondus, poussés sur des tricycles ou tenant des cannes et béquilles pour les autres, on pouvait aussi apercevoir les handicapés auditifs comme les sourds. Dans leurs modestes circonstances, les personnes vivant avec handicap de Kindu n'ont pas manqué de fustiger la méfiance manifeste des autorités de la province à l'endroit des personnes vivant avec handicap au Maniema, pourtant aptes sur le plan mental. La dernière recommandation faite par les handicapés du Maniema au gouvernement, c'est la reconnaissance de leur statut et aussi leur intégration dans la vie professionnelle. Kindu, Gabriel Waminga, Radio Kapi.
Au Kasaï occidental, les représentants du ministère de la Justice, des Affaires sociales et de la Condition féminine et famille réfléchissent pour l'élaboration d'un avant-projet des codes de protection de l'enfant. Il ressort de l'enquête effectuée sur un échantillon de la population, enquête clôturée samedi dernier, que des innovations interviendront sur la fixation d'un seuil minimum de responsabilité pénale des mineurs en guise de leur protection. Selon le directeur provincial de la division de la Condition féminine et famille, Kele Ndende Biaboko, ces propositions, une fois adoptées par le Parlement, éviteront un décalage entre la loi congolaise et les textes juridiques internationaux relatifs aux droits des enfants. Kele Ndende Biaboko, au micro de Marie Chantalumba.
S'agissant du seuil minimum de responsabilité, les enquêtés du Kasaï occidental ont fixé ce seuil à 16 ans. Ça ne veut pas dire que les enfants de 16 à 18 ans vont être traités comme les adultes. Ça veut dire qu'il y aura un traitement adapté à ces enfants, adapté à cette tranche de mineurs. Mais avant 16 ans, l'enfant est considéré comme irresponsable pénalement. En ce qui concerne la médiation, qui est une innovation, le Kasaï occidental accepte qu'on puisse introduire dans la nouvelle loi des dispositions sur la médiation. C'est-à-dire qu'on voudrait, sur le plan juridique, qu'avant que l'enfant ne puisse être présenté devant le juge, qu'il y ait un mécanisme pour trouver une solution à l'amiable.
Selon la division provinciale de la condition féminine et famille, une mise en commun des enquêtes menées dans toutes les provinces se tiendra pour valider les résultats de l'ensemble de la nation afin de les transmettre aux législateurs. Parlons sida à présent. Les lapions sont tombés ce dimanche sur les journées de réflexion sur le VIH-Sida à Butembo, dans le Nord Kivu. Les membres de la plateforme Éco-Sida ont médité sur les moyens de stopper la propagation de la pandémie, troisième cause de morbidité dans la ville. Ainsi, pour les membres de l'Éco-Sida, la sensibilisation et l'éducation de la population à travers la radio restent le seul moyen pour y arriver. Étienne Mouindou.
En l'espace de 5 ans, le sida est passé de la 6e à la 3e cause de mortalité à Butembo. Alors que le taux de prévalence nationale est de 5% moyenne, à l'est, y compris à ville de Butembo, ce taux varie entre 7 et 8%, affirme le docteur Jean-Paul Mundama, médecin chef de district sanitaire de Butembo. Les responsables de la santé, les membres des ONG locales qui luttent contre le VIH-Sida regroupés au sein de la plateforme Éco-Sida, tire la sonnette d'alarme. Pour M. Sauveur Moulouana, inspecteur au sein de l'ONG Vie pour la vie humanitaire, la pandémie du sida touche toutes les catégories de gens et surtout les jeunes de 25 à 40 ans qui représentent l'avenir du pays. M. Sauveur Moulouana pense qu'il faut renforcer l'éducation sexuelle en famille, à l'école et même dans les communautés religieuses et conduire les jeunes au respect des trois règles d'or, abstinence, fidélité et utilisation correcte des préservatifs.
Etienne Mwindo, Boutembo, Radio Capi.
Autre chose à présent, l'eau potable à Bafouassendi, territoire situé à plus de 250 km de Kisangani. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a remis 9 sources aménagées et 6 puits construits avec buses en béton armé munis de pompes à main à l'administrateur du territoire. La cérémonie de remise a eu lieu samedi dernier, il y a de cela plusieurs décennies. La cité de Bafouassendi consommait de l'eau de source. Témoin de l'événement depuis Bafouassendi, en ce même soir.
Merci et longue vie à CICR, crier la foule au moment de la remise de ces ouvrages. 3 puits dans chacun des 2 quartiers de la cité de Bafouassendi et les 8 sources dans les périphéries de la cité. Des bidons, des bassinets et seaux à main, chacun attendait son tour pour puiser de l'eau potable. L'administrateur du territoire a été la première à manier la pompe pour servir la population et à boire l'eau de la source. Adel Kafouana a saisi l'opportunité pour instruire les chefs de quartier et de bloc à veiller à la protection de l'ouvrage et à l'assainissement des sites où se trouvent ces puits et sources. Le CICR, à la fin de son travail, promet de passer chaque trimestre pour injecter du chlore dans chaque puits et source aménagé, ainsi garder l'eau potable. 2 mois ont suffi au CICR pour terminer ces ouvrages construits avec le concours de la population. De Bafouassendi, Anselme Massoua, Radio Capi.
Quittons la province orientale pour les Katanga. 3 villages de près de 600 familles aux environs du site minier de la société Tenge Fungurume seront déplacés pour un endroit sans risque. Cette mesure d'atténuation sur la pollution a été prise hier samedi à l'issue de l'exposition à Lubumbashi du projet d'exploitation minière et de traitement du cuivre et du cobalt au Katanga par la société minière Tenge Fungurume Mining. Suivant les explications de Julie Kitoto, agent social à Tenge Fungurume, au micro de Nelly Kabina.
Ces gens-là, on va leur construire de nouvelles maisons et tous leurs biens seront évalués et payés à la valeur plus 50%. Toutes ces communautés seront accompagnées dans cette réinstallation, dans l'agriculture, avec un appui qui est vraiment consistant, surtout durant les 3 premières années de faible productivité. Ces gens-là sont d'abord compensés pour les pertes de récoltes sur un taux qui a été calculé sur la base de la moyenne des prix que nous avons observé pendant une année dans la zone. Ils seront appuyés durant les premières années et même durant toute la période, je crois, du projet. Et voilà quelques mesures d'accompagnement qui sont prises par TFM pour justement assurer que cette réinstallation soit une opportunité de développement.
Un habitant du village Kiboko à Tenge Fungurume a confirmé qu'avec ce nouveau site, ils seront à l'abri de la pollution de l'air. Mais les risques sont toujours grands au niveau de la nappe aquifère, a-t-il indiqué à Radio Okapi. Toujours à l'est du pays, rendons-nous à présent à Goma. Un accord a été conclu entre la SONAS et l'OFIDA quant à ce qui concerne la maximisation des recettes de l'État. En effet, ce protocole permet à l'OFIDA de percevoir pour le compte de la SONAS la prime d'assurance des responsabilités civiles sur tout véhicule importé ou d'immatriculation étrangère entrant dans la province du Nord Kivu. Mais comment cela va se faire concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que la SONAS va gagner en faisant ce travail? Le directeur provincial de la SONAS Nord Kivu, Victor Kanyamanda Kasereka, répond au micro de Denise Loukesso.
L'OFIDA procédera sur base des tarifs que nous lui aurons remis et l'OFIDA va transférer cet argent dans un compte bancaire que nous lui aurons indiqué. Ici, ce sont des véhicules qui sont importés ou des véhicules qui entrent en tourisme qui devront faire un beau bout de temps sur notre territoire. Il y a des véhicules dans le cadre du CPGL, s'ils sont porteurs d'un certificat d'assurance dûment rempli par leur pays d'origine, ces véhicules-là ne seront pas frappés d'une prime spéciale à l'entrée. Cette assurance frontalière, c'est une assurance d'un mois. L'OFIDA perçoit une commission de 10% de la prime commerciale.
La prime à percevoir sur chaque véhicule tourne autour de 50 dollars américains, selon le directeur de la SONAS, et qui lui indique que ce montant varie selon la date de fabrication du véhicule, sa capacité de transport ainsi que son usage. Retour à Kinshasa, la commission électorale indépendante a publié vendredi dernier sur son site internet tous les résultats provisoires des législatives provinciales. Radio Capi vous propose les résultats remportés par les principaux partis dans quelques provinces du pays. C'est le cas notamment de Kinshasa, l'Équateur, le Bas-Congo, la province orientale, le Sud-Kivu, le Katanga et le Kasaï oriental. Karine Kakassi.
Sur 44 députés élus à Kinshasa, le MLC est en tête avec 22 sièges, suivi du PPRD 8 sièges, et la troisième place revient à l'Abaco qui obtient 3 sièges. À l'Équateur, sur 100 sièges, le MLC est en premier avec 37 députés élus, suivi du PDC avec 13 députés et 11 députés pour le PPRD. Au Bas-Congo, sur les 27 sièges prévus, premier MLC avec 5 sièges, deuxième PPRD avec 4 sièges et troisième RCD 3 sièges. Mais dans cette province, on remarque la présence de quelques partis alliés qui se retrouvent dans la même position que les partis repris ci-dessus, tels que l'Abaco, parti proche du PPRD qui réunit 4 sièges, et Congo Pax, allié au MLC, obtient 3 sièges. En province orientale, le PPRD prend la tête avec 21 sièges, deuxième MSR 11 sièges, Execo avec les forces du futur, tous deux alliés au PPRD. Et en troisième place, on retrouve le camp de la patrie avec 6 sièges. Au Sud Kivu, pour 33 sièges, le PPRD prend 8 sièges en premier, suivi du MSR 5 sièges et DSF Kofedec 4 sièges. Province du Katanga, sur 93 sièges, PPRD 33, UNAFE 15 et camp de la patrie 4. Kasaï Oriental, sur 61 sièges prévus, 11 pour le PPRD, 7 pour le RCD et 6 pour le MLC.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.